les encouragements d'Almuth Grésillon, qui préside aux destinées de l'Institut des textes et manuscrits modernes du CNRS, nous sont tout à fait précieux. Et à mon tour, je veux lui témoigner notre reconnaissance pour le soutien qu'elle nous a apporté depuis quelques années, depuis qu'elle est directrice, et à la suite de notre ami Louis, dans notre travail. Je présente maintenant Monsieur le professeur Kahanoff. Monsieur Kahanoff est professeur à l'Université de Jérusalem et il a écrit une thèse sur l'utilisation des documents authentiques dans la préparation des rougon-macquart. Et je me souviens d'avoir lu autrefois de M. Kahanoff un article consacré à la visite que Zola avait faite dans les grands magasins, dans les grands magasins du Louvre et du Bon Marché, lorsqu'il préparait Au bonheur des dames. M. Kahanoff avait pris la peine de refaire la visite derrière Zola, autant que je me souvienne, et de prendre lui-même un certain nombre de photographies qui étaient tout à fait extraordinaires, parce que à 60-80 ans de distance, ou bientôt 100 ans de distance, il restait encore dans les combles de ces magasins, ou dans les sous-sols de ces magasins, il restait encore des lieux qu'on pouvait photographier dans des conditions telles que l'équivalence était évidente entre la description que donne Zola dans Le Bonheur des Dames et les photos qu'avait prises un peu plus tard M. Kahanoff. M. Kahanoff s'est donc substitué dans une certaine mesure là à un hypothétique Zola photographe. C'est donc un spécialiste des rapports entre le roman et la photographie qui va nous parler maintenant sur le thème suivant, Zola et la photographie, amateur, reporter ou artiste.
Merci M. Mitran, Madame la Présidente. Je voudrais premièrement rendre hommage à mes professeurs des écoles chrétiennes en Bulgarie, il y a plus de 50 ans, qui m'ont appris le français et que, grâce à eux, je suis maintenant devant vous. Ils seraient très contents de me voir, d'une part, et peu contents de savoir que je parle sur Zola. Mais sur cela, rien à faire. Je remercie aussi M. Pagès de m'avoir invité, ce qui est pour moi un grand honneur, monsieur. 1888, année fatidique pour Émile Zola. Pendant cette année, il rencontre Jean Rosereau, il s'initie à la photographie et le premier box de Kodak est lancé par George Eastman. Il nous a fallu attendre presque 100 ans pour pouvoir apprécier cet aspect peu connu de sa créativité avec la parution de Zola photographe par François-Émile Zola et Massin en 1979. Notre communication sera fondée sur cet album de photos. Il est impossible d'ignorer le fait que le début de l'œuvre photographique de Zola coïncide avec celui de sa liaison avec Jeanne, qui était probablement la raison de son acharnement initial pour ce nouveau mode d'expression. Mais il serait simpliste de nous contenter de cette explication où, vu la qualité de ces photos et leur nombre, on parle de plusieurs milliers de clichés, comme nous l'avons entendu. Premièrement, la photographie était alors considérée comme un passe-temps à la mode, agréable et respectable, pratiqué même par des peintres, et Zola s'est laissé séduire. Deuxièmement, il a été probablement attiré par le côté technique-scientifique de la photographie qui lui offrait la possibilité de pratiquer la méthode expérimentale dans un domaine qui lui était propre. Troisièmement, il a pensé lui-même, je cite, « Vous ne pouvez pas dire que vous avez vu quelque chose à fond si vous n'en avez pas pris une photographie révélant un tas de détails qui, autrement, ne pourraient même pas être discernés. » Fin de citation. Et pour lui, la justesse des détails était, nous le savons, primordiale. Ajoutons une dernière hypothèse. N'est-il pas possible que la photographie ait remplacé la soupape littéraire, d'après le mot d'Armand Lanoux, en lui permettant l'expression artistique de son érotisme et de son amour? Ne pourrons-nous pas dire qu'en 1888, Zola aurait fait la connaissance de deux maîtresses, Jeanne et la photographie? qu'il allait chérir toutes deux durant le reste de sa vie. À première vue, il n'y a pas de doute que Zola a été photographe amateur, la photographie n'étant pour lui qu'une détente. Mais, comme il le dit lui-même, c'était une récréation trop absorbante qui dérangeait ses habitudes. Je cite, « Je vais la négliger un peu car j'ai besoin de m'isoler dans mon travail. » On a l'impression qu'il aurait préféré lui consacrer beaucoup plus de temps. Une lettre de sa femme révèle son intention, je cite, « d'organiser un album de photographies qui le fera passer à la postérité des photographes. » À la postérité des photographes. Fin de citation. Nous pouvons donc supposer qu'il considérait certaines de ses photos dignes de la reconnaissance générale ou, en d'autres termes, dignes de publication. Ainsi, son état d'amateur n'est plus si net, surtout quand on sait qu'à l'époque, beaucoup de photographes ne reconnaissaient pas officiellement leur métier, Adjé et Lartigue, entre autres, et que la majorité des photographes professionnels ne faisaient que des portraits. L'analyse des photos de Zola montre, en fait, qu'il n'exerçait pas son violon d'Ingres avec amateurisme. Prenons par exemple les photos de l'exposition universelle de 1900. Zola la photographiait comme s'il faisait un photoreportage. Nous avons l'impression qu'avec son appareil, il refaisait ce qu'il avait fait en 1878 avec sa plume. Regardons par exemple les photos. Regardons ces photos de la Tour Eiffel. Bon, vous l'avez déjà vu, c'est une très belle photo, je n'ai rien à ajouter. En voilà une autre. Ainsi qu'une autre prise du haut de la tour. Cette photo figure dans une histoire de la photographie comme exemple d'une très belle photo prise du haut de la tour avec des angles tout à fait originaux pour l'époque. Elle rappelle ce passage de sa lettre de Paris sur l'exposition universelle de 1878, je cite, « Plus loin, la Seine tranche le paysage de sa ligne verte et par-delà, le pont s'étendent le champ de Mars et son palais gigantesque à la silhouette étrange et imposante. De loin, on pourrait croire que c'est toute une ville étrange et moderne de fer et de fonte. » Fin de citation. Et si on substituait la tour Eiffel au palais? C'est en fait un vrai reportage que Zola a fait. Regardez la grande roue. Le ballon dans le village suisse. La plateforme mobile. Encore une fois, la plateforme mobile. Et le globe terrestre. Et pour l'époque, elles nous font revivre l'ambiance joyeuse de cet événement possédant de vrais mérites professionnels. Et encore une. Ces deux dernières, moins parfaites techniquement, mais aussi intéressantes, complètent ce photoreportage. Rappelons-nous qu'on a qualifié d'instantané les notes que Zola prenait sur le vif pour les dossiers préparatoires et un lien est établi non seulement entre son article de 1878 et ses photos de 1900, mais aussi entre sa manière de se documenter et la pratique de son passe-temps favori. Les petits feuillets, écrits au crayon, sur lesquels il notait ses impressions, peuvent être comparés à des plaques ou négatifs. Les grands feuillets sur lesquels il recopiait ses notes à l'encre, aux épreuves, alors que le texte dans le roman basé sur ses notes serait l'agrandissement ou le tirage définitif des photos. Sans affirmer que Zola était reporter photographe au sens actuel de ce terme, nous n'hésitons pas à le classer parmi les précurseurs de ce genre. Mais était-il un photographe artiste ? Y a-t-il parmi les photos de Zola, publiées à ce jour, suffisamment d'exemples possédant des qualités artistiques ? On sait qu'un amateur débutant avec l'appareil le moins perfectionné est capable de prendre une photo exceptionnelle tout à fait par hasard. Pour passer à la postérité des photographes, comme disait Madame Zola, il faut avoir pris beaucoup de photos avec une ou plusieurs des marques de l'œuvre d'art. Mais qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? Zola nous a donné la définition, nous la connaissons tous. Une œuvre d'art est un coin de la création vu à travers un tempérament. Quelque peu adaptée à la photographie, cette définition nous servira pour décider quelle est la photo digne d'analyse. Une photo d'art est un instant de la création capté par un tempérament. En quête de ces photos, opérons une classification des 480 documents contenus dans l'album. Nous trouvons des natures mortes, des paysages, des portraits et des photos présentant la condition humaine d'après l'appellation des éditeurs de Life Library of Photography. Commençons par les natures mortes, peu nombreuses dans l'album. Voilà le petit Émile et son père. Composition insolite et très méticuleuse. N'a-t-on pas la sensation de mouvement ascendant créé par la différence des dimensions des livres, de la pile, obtenue grâce à la position des deux livres à la base, plus proche de l'objectif que les autres, et les trois livres à droite, rangés en mini-pyramide, s'appuyant sur la pile. Zola ne voulait-il pas dire « Papa, tu peux être fier de ton fils, il a rendu célèbre le nom Zola. » Armand Lanoux a écrit à propos d'une autre nature morte, présentant elle aussi les œuvres de Zola, je cite, « Par le viseur, le romancier photographe regarde son paquetage pour l'éternité. » Fin de citation. Il y a là une double signification, car ce ne sont pas seulement les romans qui le feront passer à l'éternité, ce sont aussi ses photos. Placer une photo dans une photo n'est pas chose courante et peut donc être considérée comme l'une des marques du style de Zola, c'est-à-dire de son tempérament. Deux autres natures mortes contenant la même astuce. Et ce n'est pas que le côté technique, c'est la présence humaine qui, plus que toute autre chose, caractérise ces photos. Il nous semble qu'en composant ces natures mortes, l'écrivain voulait dire ce qu'il n'arrivait pas ou n'osait pas écrire. N'avait-il pas envoyé à sa femme en guise de lettre la photo d'un bouquet de fleurs qu'elle lui avait offert ? Passons maintenant aux portraits. Ils sont très nombreux. 84 photos que nous considérons comme portraits. La plupart sont des photos de ses enfants et de Jeanne, dont nous découvrons la personnalité complexe. Tantôt romantique, tout en noir, portant un chapeau à voilette à la mode, le visage serein et quelque peu triste, d'une réelle beauté. C'est peut-être le plus réussi de ses portraits. Tantôt souriante, révélant bonté et tendresse, et tantôt la femme séductrice, ses longs cheveux noirs épandus sur ses épaules, en décolleté avec une expression suggestive. On pourrait donner à chacun de ces portraits les noms de plusieurs des héroïnes des Rougon-Macquart. Ce sont là des impressions subjectives d'un admirateur de Zola. Pour atteindre un certain degré d'objectivité, faisons quelques comparaisons entre les photos de Zola et celles de photographes de la même époque dont les œuvres ont été déjà présentées à des expositions. Voilà un autre portrait de Jeanne. Et celui d'une certaine Sibylla, présentée à l'exposition La Photo d'Art vers 1900, qui a eu lieu à Bruxelles en 1983, et prise par James Craig Annan, photographe de renommée mondiale, en 1895 ou 1896. Les deux femmes, de trois quarts, la lumière tombant du haut, Sibylla en noir sur un fond sombre, Jeanne en clair sur un fond clair. Le portrait d'Annan est plus stylisé. Sibylla ne nous regarde pas droit dans les yeux et son col et son cou élancé donnent en portrait une certaine élégance froide renforcée par le format de la photo. Par contre, le regard de Jeanne, un peu fâché, est dirigé vers nous et sa boucle d'oreille produit un reflet agréable, ajoutant ainsi une certaine harmonie au visage. Deux portraits qui se ressemblent beaucoup, exécutés par deux tempéraments différents. Il nous semble que Jeanne aurait pu figurer à l'exposition aux côtés de Sibylla. Mais, dira-t-on, où est le mérite de Zola? Jeanne était pour lui plus qu'un modèle. Regardez alors le portrait de Georges Charpentier. Remarquez la perfection technique, la compréhension du caractère du sujet et l'ambiance qui se dégage de cette photo. Et voilà le portrait de Paulette Brulat. Ne porte-t-il pas les mêmes marques? Nous ne savons pas ce qu'est devenue la fille de Paul Brulat, mais son portrait dévoile un certain aspect de sa personnalité, tout en étant, comme vous le voyez, une très belle photo. Faisons une deuxième comparaison, cette fois-ci entre Denise et Jacques, photographiés par leur père, et la photo des enfants d'un photographe allemand connu, Hugo Erfurt, présentée elle aussi à l'exposition La Photo d'Art vers 1900. La ressemblance est indéniable, comme l'est la dissemblance. Les enfants d'Erfurt sont quelque peu figés, éloignés l'un de l'autre, bien que se tenant par la main avec un regard presque sans expression. Par contre, ceux de Zola, sœurs et frères, sont de vrais enfants contents d'être ensemble. Ce qui ressort des portraits de Zola, c'est la sensation de chaleur humaine, un certain lien entre le photographe et ses modèles. Nous avons cette sensation même quand il s'agit d'animaux. Comme cette excellente photo... Pardon, encore une fois. Voilà, comme dans cette excellente photo, disons ce portrait du cheval bonhomme tenu par un domestique. N'est-ce un portrait? Il est clair que dans les paysages, ce trait du tempérament de Zola sera moins prononcé. Ce que nous voyons, ce sont les influences qu'il avait subies. Remarquez la recherche des reflets dans l'eau, le canot et les personnages indistincts. Ne nous rappelons-nous pas des tableaux impressionnistes? Et cette fumée qui sort de la cheminée des locomotives? Et des bateaux? L'attention qu'il prêtait au progrès technique est illustrée par cette photo panoramique prise avec un appareil spécial. Nous l'avons déjà d'ailleurs vu, c'est le Kodak panoramique. Malgré ses influences, Zola n'a pas adhéré au courant de la photographie artistique, pictorial photography, et ses paysages ne sont pas des peintures. Ce sont des photos. Quand nous abordons le chapitre des photos de la condition humaine, nous nous attendons à trouver le naturalisme de Zola et nous risquons d'être déçus ayant subi l'influence de la photographie moderne. Pourtant, quand nous les observons attentivement, nous nous rendons compte que c'est bien l'auteur des Rougon-Macquart qui les a prises. Il photographie ses domestiques au travail, les balayeurs à Paris, les jeux de ses amis à Médan et surtout ceux de ses enfants avec une maîtrise technique digne d'un professionnel de l'époque. Regardez cette photo de Paul Martin, loué par les éditeurs de Life Library of Photography pour la sensibilité avec laquelle a été capté le jeu des enfants et comparez-la avec celle de Denise et de Jacques faisant des bulles de savon. Voilà. Bien que ces photos ne se ressemblent pas, et ce sont des jeux d'enfants, et même si la photo de Zola est un peu posée, le fait d'avoir choisi cette pose et non une autre suffit pour pouvoir la comparer à la photo de Martin. Pour apprécier encore mieux le tempérament de Zola, photographe, et la valeur artistique de ses photos, osons une comparaison plus audacieuse. Voici la photo d'Alfred Stieglitz, un des plus grands photographes, appelé A Street Scene, faite vers 1900. Et voilà celle de Zola, que Massin appelle les grands boulevards sous la pluie. Les éléments de base sont presque identiques. Une rue sous la pluie, une rangée d'arbres, une voiture au milieu, les deux prises en contre-jour. La photo de Stieglitz appartient à la phase picturale de son œuvre. Celle de Zola, un instantané, pourrait être classé dans le courant de la photographie pure à laquelle adhéra Stieglitz quelques années plus tard avec un cadrage plus soigné et elle aurait plu peut-être aux photographes américains. À notre avis, si on analysait les photos de Zola comme on analyse ses romans, on s'apercevrait que son regard n'avait rien perdu de l'acuité avec laquelle il prenait ses notes sur le vif. Qu'il était photographe de talent, sachant voir, choisir et appuyer sur le déclencheur au bon moment. Prenons cette photo d'une rue à Mantes. Au premier abord, rien d'intéressant. Mais opérons l'agrandissement d'un petit détail, le groupe à gauche. Analysons-le. Monsieur, voilà. Nous voyons une scène vivante, un moment de la vie quotidienne. Ne nous sentons-nous pas dans le décor d'un de ses romans? Zola savait dire des choses avec son appareil qui était devenu pour lui une seconde plume. Amateur, il a fait un journal intime, journal qu'il n'avait jamais écrit. Reporter, il a enregistré une partie du quotidien de son époque. Artiste, il a créé une œuvre qui a sa place légitime dans le patrimoine universel de la photographie. Merci.
Merci mille fois pour ces prises sur le vif que vous nous avez montrées et qui montrent bien à quel point Zola a écrit des carnets d'enquête que Henri a édité il y a peu de temps, mais il a capté le vif aussi par ces photos que vous avez bien voulu nous faire revoir. Merci beaucoup. Et à vous de poser les questions qui vous brûlent sur les lèvres. Oui. Madame,
je voudrais savoir si le dispositif que monsieur a analysé au début, c'est-à-dire la photographie photographiée, cette manière de mise en abîme, a un répondant quelconque à un moment ou à un autre dans le texte de Zola, ou en d'autres termes, si il s'est soucié du théâtre dans le théâtre.
Donc je recommence ?
Non, 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 je crois non. que tout le monde a compris.
Je ne vous ai pas bien compris, madame.
Monsieur a insisté au début sur la photographie d'une photographie, c'est-à-dire qu'il y avait une photographie photographiée et en quelque sorte ce qu'on appelle, je crois, une mise en abîme. Et je ne suis pas, enfin, une lectrice, comment dirais-je, spécialiste de Zola, mais ça m'a frappée, ça m'a surprise. Et je me suis demandé s'il y avait une préoccupation autre que celle-ci, fortuite, de mise en abîme dans le texte de Zola, ou bien s'il s'était soucié parfois de théâtre dans le théâtre.
Henri.
Enfin, je veux bien intervenir sur ce point. Enfin, M. Canoff a sûrement d'autres éléments de réponse, mais j'ai été aussi très frappé par l'extraordinaire intérêt de cette photo que vous nous avez montrée, que pourtant on a tous vue, mais qu'on voit sous un autre angle quand vous la présentez sur l'écran. Elle est tout à fait extraordinaire, cette photo, elle mériterait à soi seule un livre. Moi, ce qui m'a frappé, par exemple, c'est l'empilement des livres. Et d'un bout à l'autre de la carrière de Zola, ce qu'on retrouve ici, c'est un peu les livres qu'on nous a montrés avant-hier, ou hier plutôt, dans l'exposé de Nicole Savy, les livres qui figurent sur le portrait de Manet. C'est très étonnant de voir cette espèce de symétrie entre le portrait de Zola par Manet et cette photo de Zola lui-même et de son père au milieu de livres par Zola. Alors là, il y a un effet de dédoublement et de mise en abîme extraordinaire. Mais pour répondre à votre question, il y a aussi un autre commentaire. La présence du père est tout à fait importante ici. Cette photo a dû être faite au moment où Zola était contraint de réhabiliter, dans une certaine, pas de réhabiliter, mais tout simplement de prendre la défense de son père, qui avait été sali par les campagnes de calomnie montées par un journaliste anti-Dreyfusard qui s'appelait Judet. Alors je pense que là, il y a un hommage au père hein, et un rappel de l'hérédité paternelle dans la jeunesse des Rougon-Macquart qui est tout à fait importante. Mais le problème de la mise en abîme et du théâtre dans le théâtre, alors oui, c'est une question qu'on peut se poser constamment en lisant Zola. Moi, j'essaierai d'y revenir tout à l'heure, mais très fréquemment dans les romans de Zola, on voit des dédoublements de cette sorte. Pensez par exemple à la mise en scène de Phèdre dans La Curée, où René et Maxime, qui sont parmi les spectateurs, retrouvent leur propre histoire dans la scène qui se joue sous leurs yeux au théâtre. Et ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ça tendrait à montrer que Zola est parfaitement conscient de ce genre de procédure, pour ne pas parler de procédé, quand il écrit ou quand il compose ses photos, alors qu'il fait totalement le silence sur tout ça dans ses œuvres théoriques.
C'est-à-dire que la mise en abîme est très très fréquente dans l'œuvre de Zola. Mais rien que dans le docteur Pascal, les résumés de Rougon-Macquart sous forme de dossier du docteur Pascal lui-même. Une des mises en abîme les plus, enfin, la plus caractéristique dans les Rougon-Macquart.
Toujours pour la même réponse, vis-à-vis du théâtre lui-même, vous avez une pièce de théâtre qui comptait mettre en drame lyrique, qui s'appelle Sylvanir, et où vous avez l'histoire d'une danseuse qui est représentée sur la scène, qui est chantée, et où on voit justement du théâtre dans le théâtre.
Je vous remercie, monsieur.
Je vais juste poser une question à M. Kahanoff, au fond, qui a fait un exposé tout à fait brillant. Est-ce qu'à votre avis, la sensibilité artistique de Zola photographe est plus grande dans le portrait ou plus grande dans les scènes sur le vif? Vous qui avez fréquenté ces photos en les regardant avec attention pour préparer cela.
La question qui se pose est la suivante. Bon, ma voix est suffisante. Et non, je crois que tout le monde l'entendra. Quand on fait un portrait, on a besoin d'une certaine sensibilité. Quand on fait une photo prise sur le vif, de notre genre de sensibilité. Et vous voulez savoir ce que moi, personnellement, je pense? Eh bien, d'après les photos contenues dans l'album, il est plus sensible quand il fait des portraits. Sa sensibilité est plus grande. Mais ça ne veut rien dire, parce qu'il faut voir au moins encore 1000 pour... affirmé.
Moi, je pense qu'au contraire, il est plus grand photographe quand il est dans la rue, dans l'exposition universelle ou à Londres, qu'il ne l'est dans les portraits. C'est un portraitiste intime, c'est-à-dire ce sont ses proches, il photographie avec tendresse et affection, mais comme photographe, comme créateur d'images, comme bâtisseur d'images, il me semble qu'il est plus fort, plus grand, plus personnel, qu'il a plus de style. Avec les photographies de rue, d'exposition.
Mais vous parliez de sensibilité, monsieur.
Mais,
bon, si vous voulez. Mais j'ai d'ailleurs dit que, comme reporter, il est précurseur de son genre. Il n'y a aucun doute. Oui.
Il y a un aspect certain de distanciation même temps vis-à-vis de l'art et des œuvres artistiques qu'il connaissait bien à son époque dans sa photo. Je verrais une espèce de contrepoint à la critique artistique de Zola dans une lecture de certaines des photos, celles que Naomi Shaw a présentées ce matin, où il y a une statue de Dalou, et en contrepoint des attitudes visiblement de femmes du peuple qui portent, qui avancent péniblement sur la place, me semble vraiment une réflexion sur l'œuvre de Dalou aussi bien que un document humain. Et nettement, les angles et les positions qu'il a choisies dans les instantanées, je pense qu'il était assez habile pour saisir le mouvement, ce qui est assez exceptionnel à cette époque, me semble en dire long sur la façon dont Zola regarde une sculpture, aussi bien une forme humaine en mouvement.
Je veux seulement vous dire que j'ai encore 20 diapositives, mais que simplement le temps ne permet pas de les présenter toutes. Elles sont prêtes. Si vous en avez envie, je vous les présente.
Oui.
J'aimerais dire que je suis assez d'accord avec le jugement sur la sensibilité liée au portrait et aux prises de vue, d'une part par la qualité des photos que j'ai vues, et d'autre part aussi pour la raison de l'ordre plus général. J'ai l'impression que cela, d'une part, pour la prise de vue du portrait, la carte est bien créée avec ses modèles, avait le temps nécessaire, était dans l'anonymat, mais les personnes ne connaissaient pas la dernière, etc. Et je me demande si les photos prises par la discussion universelle, dans les anglais, etc., si on peut vraiment les juger. Parce que cela est connu, cela devait procéder probablement rapidement. D'autre part aussi, j'ai l'impression qu'il faut tenir compte et comprendre les conditions de prise de vue. Et effectivement, à mon avis, ce serait cela, par exemple, qui expliquerait, à mon avis, c'est quelque chose objectif, que les photos ont une qualité particulière. À tout, sauf le côté documentaire, aux photos prises à l'extérieur.
Est-ce que je peux vous répondre que les gens travaillés à partir
du projet
de Zola, effectivement, sur tout ce qui concerne la partie d'ouverture d'exposition, il expérimentait le premier film sur celui-là, et technologiquement, comme on dit aujourd'hui, ce n'est pas parfait encore. Et puis, beaucoup de mal. Parce que tantôt c'était surexposé, tantôt c'était fortement sous-exposé. Donc il y avait une différence de qualité plastique, disons, par rapport au portrait fait avec des plaques 13-18 ou 18-24, essentiellement les portraits d'ailleurs, ou des paysages familiers, il y a une différence très grande. Et j'ai beaucoup souffert justement de difficultés d'arriver à tirer de bonnes épreuves de certains clichés pris en 1900.
Pardonnez-moi, mais je pense que ça fait quand même un débat important, si vous laissez. On a cette question pour quels que soient les photographes. Quand vous prenez le rôle de Cartier-Bresson, vous allez chez Magnum, vous avez des tas de cahiers, de planches de montage.
Et pour tout photographe, le plus grand comme le plus nouveau, la question se pose. Quelle œuvre ? Où est l'œuvre par rapport aux milliers de photos, aux centaines de milliers de photos ? Bon. Et je pense que chez Zola, on peut quand même se dire un jour que dans l'iconothèque dont nous parlons, on va isoler au moins les 10 meilleures, ou les 10 plus importantes, ou les 10 plus fortes, et puis ensuite les 50 suivantes, etc. Et il me semble que dans les photos qu'on a vues un peu ce matin, moi je voudrais en parler de deux photos. Une qu'on a vue ce matin qui est la cour du Havre de la gare Saint-Lazare. Qui est une photo quand même extraordinairement composée. Je veux dire, quand on connaît la photographie, quand on sait l'analyser, il s'agit d'une cour, il y a des fiacres, il y a des porteurs, il y a des gens qui circulent, il y a un étagement des personnages. il y a une façon de mettre l'axe optique en plongée. Zola a dû monter soit sur un escalier, soit sur je ne sais quoi, se pencher d'une fenêtre. Il n'a pas pris une photo banale au ras du sol qui aurait écrasé les personnages les uns sur les autres. Il y a des petits espaces blancs entre chaque personnage. C'est composé comme les patineurs de certains tableaux hollandais. Je veux dire, il y a une véritable sensibilité artistique. Il y a un choix d'angle de vue, il y a un choix de composition de détails, il y a un choix d'organisation des grandes masses graphiques qui est l'œuvre de quelqu'un qui sait composer une image. Deuxième photo, celle qu'on a vue récemment, qu'a montré le professeur Kahanov, qui est une photo prise de la Tour Eiffel, en plongée là aussi, donc il y a un effet de plongée qui est peut-être intéressant chez lui, où l'on voit en dessous de la grande courbe de la Tour Eiffel, on voit un pavillon blanc, métallique, et puis il y a une allée de sablé aussi, où se profilent des personnages. Eh bien, on sait que dans l'histoire de la photographie, un très grand photographe comme André Kertész a repris en 1929, je crois, une photographie proche de celle-là, sans le pavillon, bien sûr, il avait été détruit, et où il joue de la même manière sur la grande courbe de la Tour Eiffel, et puis des phénomènes de zigzag qui sont liés au gazon, aux allées, etc. Donc là, je pense qu'il y a deux très grandes photographies prises sur le vif. Et puis j'ajouterais, et là, le professeur Kahanov a tout à fait raison de la mettre en évidence, c'est l'immense photographie de l'autoportrait au père avec les livres entassés. Là encore, dans l'histoire de la photographie, un des tout premiers photographes, qui est Fox Talbot, a pris le premier une photographie de rangée de livres. Et une rangée de livres, c'est très important en photographie parce que c'est un sujet où l'on ne joue que sur des valeurs de gris les unes par rapport aux autres, des reflets sur les reliures de cuir ou les tranches, etc. Et on a donc un phénomène extraordinairement graphique où les grands photographes se mesurent les uns aux autres parce que c'est très difficile. On joue sur un gris petit et puis un gris très foncé. Il n'y a pas de grand noir, il n'y a pas de grand blanc, il n'y a pas de choses comme ça. Et Zola s'en est très très bien tiré. Et cette photo, pour moi, fait partie des chefs-d'œuvre de l'histoire de la photographie. Et je pense que c'est un grand chef-d'œuvre de Zola. C'est-à-dire que non seulement il y a cette composition architecturale, les trois volumes en biais sur le côté, c'est une idée de génie, vraiment une idée de génie par rapport à la pile de livres. Il y a ce phénomène du temps qui est présent, puisque c'est une photographie d'une autre photographie qui a sans doute 50 ans ou 60 ans de distance, et qui montre le père et le fils ensemble. C'est une espèce de mausolée à soi-même et une mausolée à son propre père. Je crois, Henri, que les livres sont des traductions en langue étrangère des Rougon-Macquart ou des grandes œuvres de Zola. Donc en fait, c'est la renommée mondiale du grand écrivain mondial. Et puis, il y a un autoportrait. Or, l'autoportrait est un genre en soi aussi, très particulier de la photographie, mais très important. Les photographes sont des fous d'autoportraits en général. Et là, il y a un grand autoportrait de quelqu'un qui était un photographe.
Vous voulez ?
Je voulais répondre.
Oui, vas-y.
Je n'étais pas là ce matin, donc on va se rappeler. Je n'étais pas là, je ne vais pas parler beaucoup d'elle. Je vais parler maintenant de celle de la prise de vue en plateau éclair avec ses séries courbes, etc. Personnellement, je suis très honnêtement et très brutal dans mon opinion. Je ne suis pas du tout convaincu par les explications données, y compris même par celle de l'affiche, de livre, etc. D'une part, parce que je ne suis pas convaincu indignement, et d'autre part aussi, parce que je me demande quelle est la part d'accidentelle dans la prise de vue. Est-ce qu'on est vraiment sûr que Zola va trouver cela, ou est-ce que Zola n'a pas cela, parce qu'il était dans une position où la perspective jouait très mal, on ne pouvait pas monter, descendre, et après, ce qui arrive souvent. Je pense par exemple à la sémiotique, dont cette science est née à la suite de l'écran, par exemple, de Grimace, qui le titre, par exemple, qui a donné origine à la science, ne vient pas de lui, il avoue, c'est un titre imposé par l'éditeur. Bon, il y a des choses comme ça qui arrivent souvent. Je me demande à quel point on veut faire des informations par rapport à ces photos-là. Dans le cas des portraits, c'est différent. Dans le cas de la nature morte, c'est la même chose, parce qu'il y a une distance. Je me range dans le côté des portraits, il a eu le temps de poser, cadrer, etc. Là, on peut dire que c'est un choix, il a tout construit. Quand il est à l'extérieur, je ne sais pas s'il n'a pas pu aller deux marches plus haut, plus à gauche ou plus à droite, mais souvent je n'ai pas là. Je vais vous des commentaires sans savoir exactement quelles conditions le photographe pourrait réagir. Mais en plus, du point de vue esthétique, je ne suis pas convaincu. Voyons par exemple tout à l'heure le parallèle avec les autres, par exemple la rangée d'art, bon, il est clair pour moi, personnellement, que les autres ont.
Oui, pour la
rue, voilà.
Eh bien, la discussion va pouvoir encore s'étendre et continuer parce que nous allons maintenant donner la parole à M. Massin. Je pense qu'il n'est pas indispensable de présenter longuement M. Massin. Je voudrais tout de même dire que nous avons sa personne, un extraordinaire spécialiste et créateur de l'image, puisque Massin a dirigé pendant de longues années tout le service artistique des éditions Gallimard, c'est à lui que nous devons les maquettes de couverture de quantité d'ouvrages. Je me rappelle, alors ça c'est un souvenir personnel, que lorsqu'avec Jean Vidal nous avons fait l'album Zola en 1962 dans la collection des albums de la Pléiade, c'est vous, je crois, monsieur Massin, qui avez organisé la maquette d'un livre qui maintenant est presque une pièce de collection, je crois, en raison même justement de ses qualités artistiques. D'autre part, tout le monde sait ici que monsieur Massin, ou plutôt, pour dire comme on dit toujours dans Paris, Massin tout court, Massin est le metteur en scène et le metteur en image du livre qu'il a publié avec le docteur François-Émile Zola, Zola photographe. Il va nous parler aujourd'hui sur ce thème, Zola et les techniques photographiques, donc la discussion au fond continue.